Et entre des maisons de mitoyennes, entre ces deux typologies, il y a 30% de différence. C'est énorme, c'est pas évident. Les murs mitoyens sont parfois grands. Bon, entre les deux, on trouve des maisons qui sont isolées, qui sont mitoyennes que d'un côté, ou mitoyennes partielles, la maison d'un côté peut être beaucoup plus basse. En ville aussi, on bénéficie d'un microclimat plus chaud, 2 degrés de plus par rapport à la périphérie urbaine, c'est vrai à Poitiers, c'est vrai à Nantes. Alors, pour recaler le cas de Nantes par rapport à Poitiers, au fond, parce que les températures sont un tout petit peu différentes à Poitiers. À Nantes, on a un climat légèrement plus clément, je pense de l'ordre de 1 degré, 2 degrés peut-être, mais tout ça dépend des années, puisqu'il y a des fluctuations entre les années. J'ai les chiffres d'ailleurs, je vais éviter de vous dire des bêtises. À Nantes, dans les 10 dernières années, les années les meilleures. La moyenne des années les plus défavorables, l'année la plus défavorable, excusez-moi, c'est pas dans les 10 dernières années, c'est dans les 30 dernières années, est de 10,47 degrés, la moyenne sur l'année, et l'année la plus favorable, mais je crois que l'année 2011 a été encore meilleure, c'était 2003, 13,29 degrés, je crois que 2011 dépasse un tout petit peu. Donc vous voyez que vous avez une différence pratiquement de 3 degrés de moyenne d'une année à l'autre. Donc c'est très difficile, et en termes de consommation, évidemment, ça se répercute aussitôt, puisque les 3 degrés, ils sont à prendre sur ce que vos appareils de chauffage ont à faire en moins. Le delta entre l'intérieur et l'extérieur, il est pas supérieur à 10 degrés la plupart du temps. Donc, c'est 30% pratiquement. Bon, objectif et bénéfice de la réalisation thermique, bien entendu, économiser les énergies. Il y a au fond, les objectifs citoyens, c'est économiser les énergies fossiles, c'est éviter les gaz à effet de serre, etc. Et puis, les objectifs de confort, ben, c'est toujours mieux d'être chauffé correctement, tout le monde apprécie en général, et qui sont liés à des objectifs d'économie. Et peut-être que c'est ça le principal moteur, puisque on nous annonce des augmentations de prix d'énergie régulièrement, qui heureusement ne sont pas toujours vérifiés pour l'instant, enfin pas dans des proportions catastrophiques qu'on a bien voulu nous faire prendre, mais le pire n'est jamais sûr, mais le pire peut arriver aussi. Quelle occasion de réhabiliter? Alors là, on est absolument dans la sociologie, c'est-à-dire que vous réhabilitez votre maison du point de vue thermique lorsque vous êtes obligé, c'est-à-dire que la chaudière vient de péter, bon, on change. Un peu contraint, c'est-à-dire que vous apercevez qu'il fait trop froid, que vous n'avez pas chauffé correctement, donc vous intervenez. Et puis, on avait été très motivé, c'est-à-dire que la plupart des transformations se font au moment des mutations. Vous achetez une construction ancienne, vous la réhabilitez, et au moment de la réhabilitation, effectivement, vous en profitez pour faire ces travaux d'isolation d'isolation thermique, pour l'économie d'énergie, et qui vont se passer d'autant plus facilement que vous entamez souvent des travaux, d'autres travaux, et puis l'addiction, au fond, de toute façon, relativement élevée. Pour encourager, il y a des campagnes d'incitation, ou aussi incitation financière. Comment le réhabiliter? On va passer ça. Choix des constructions étudiées, je l'ai dit déjà, donc on ne va pas y revenir. On va passer directement dans l'analyse d'une des maisons. Il y a 3 maisons. Je vous passerai les autres très rapidement. On va regarder déjà ce qu'on a fait sur l'une des maisons. Bien entendu, tout plan, coupe, façade, etc. Et potentiel d'ensoleillement, sorti des études de Mélanie Brollo. Pour chaque construction, évidemment, on a la consommation, on a la description de la vie des habitants. Alors on en sait beaucoup plus, bien entendu on n'a pas raconté l'histoire de leur vie, mais c'était intéressant de les connaître, de parler avec eux, et de parler avec vous aussi. Donc la première maison, c'est une famille, un couple avec 3 enfants en assez bas âge, je me souviens, ils avaient de 5 à 12 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Une surface habitable de 163 mètres carrés, qu'on a transformé en chêne, parce qu'à l'époque, les calculs se faisaient à partir de la chêne, ça va changer, ce sera maintenant la surface de plancher. qui nous donne une surface de choc plus importante, qui va rentrer dans les calculs. Le chauffage est un chauffage à gaz avec radiateur, avec une chaudière ancienne, deux ballons de chaux électrique, 400 litres de stockés, un chauffage donc heure creuse. Et on fait rentrer dans ce calcul la cuisine, qui est une cuisine, cuisinière et four à gaz, et l'électricité d'éclairage. Tout ça doit rentrer, si on veut se référer, aux objectifs BBC. Quand on dit 50 kWh par mètre carré par an, c'est tout compris, y compris l'ordinateur qui fonctionne. Alors j'ai oublié de dire une chose, et ça faisait partie de la diapositive en précédente sur les DPE, où on précisait que l'objectif pour les constructions anciennes était seulement de 90 kWh par an et mètre carré, toujours, de chaîne. Vous voyez qu'ici, cette maison, on arrive à 99, ce qui montre une certaine difficulté. Donc, reprenons maintenant cette maison avec un panel de travaux qu'on verra dans les dernières diapos, d'ailleurs, hein, de façon illustrée avec des croquis. Isolation sur des murs, bien entendu, isolation des planchers et des toitures, et changement des ouvertures, changement de chaudière, etc. Et puis, extension, c'est-à-dire que dans cette maison, on va envisager de faire une extension vitrée au rez-de-chaussée qui entourerait la petite cuisine qui est ici, et qui donnerait une pièce à vivre, les habitants ont envie de faire ça, et donc on va la prendre en ligne de compte. Je vais me mettre à la hauteur de mon écran, autrement j'ai du mal. Bon, le choix qui a été fait parmi ces 24 items, possible. Alors, je passe tout de suite sur le 23 et 24e, je ne sais pas si vous les lisez. Il y en a un qui est avec ou sans mitoyenneté, donc c'est tout à fait théorique, mais c'est intéressant. Cette même maison, s'il n'avait pas de mitoyen, elle a une mitoyenneté aux trois quarts, on va dire, parce que là, c'est une mitoyenneté totale, et de l'autre côté, la maison est moins épaisse et moins haute, donc c'est pas très bon. S'il n'avait pas de mitoyenneté du tout, c'est donc l'économie calculée. 27% ou 27,5%, tout à l'heure je disais 30%, là on est dans le cas d'une maison qui n'était pas totalement mitoyée, c'est important. En revanche, rotation par rapport à l'axe nord-sud-est-ouest, moins 0,7%. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur ces maisons anciennes, compte tenu de l'inertie et de la faible petite dimension des ouvertures, l'orientation n'a pas une influence déterminante. Déjà, il y a deux façades, dans les maisons de l'entrée, il y a deux façades. Donc, dans des situations particulières d'une seule façade, probablement que l'orientation a de l'importance. Et probablement aussi que si on avait un modèle de calcul meilleur, j'ai dit qu'on ne prenait pas en compte l'inertie des murs, on arriverait sur ce poste à des différences. C'est-à-dire qu'on prendrait non seulement en compte l'apport par les ouvertures, mais aussi l'apport par le mur lui-même. Mais ça, on ne sait pas faire actuellement. Donc, revenons à cette maison. On a décidé, par rapport aux travaux faisables, parce qu'il y en a qui sont difficiles à faire, d'isoler les murs partout avec un complexe chauffe-chambre sur 10 cm d'épaisseur. On reviendra sur ces choses-là. Des baies, on a remplacé les baies par des baies en bois double vitrage, étanches. Et on a isolé le plancher bas, ici, qui n'était pas fait, c'était extrêmement simple. On n'a pas isolé le plancher qui est sur terre, parce que c'était plus compliqué et cher. On a changé la chaudière pour mettre une chaudière à condensation et chauffer l'eau chaude sanitaire en même temps. Ça, c'était un gain très important, plus de 31%. L'amélioration simplement de réguler le site chauffage, 13%. C'est-à-dire qu'on voit sur l'ensemble régulation et changement de chaudière, performance de chaudière, un gain absolument énorme par rapport au reste, puisque on était isolation des murs, on gagnait 14% tout ça étant un pourcentage par rapport à la consommation actuelle. Changer les ouvertures, on gagne que 7%, on va dire. Et faire un volume additionnel ici, on gagne 15%. Au total, on n'arrive pas à 90%, il faut arriver à 90%, il faut isoler la totalité des planchers, il faudrait reprendre l'isolation de toiture, attendez, on ne l'a pas faite ici, je suis en train de demander Non. Est-ce qu'elle était déjà faite et c'était des travaux chers? Donc on se contente de 99% avec des travaux qui ne sont pas trop perturbants pour la maison. La même chose sur cette maison, alors là je vais vous en passer rapidement, cette maison est habitée par un couple avec deux enfants, également en bas âge, la maison est beaucoup plus petite, et c'est des gens qui visiblement se chauffent moins, on a une consommation qui est beaucoup plus faible. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer la consommation calculée à la consommation d'origine. Sur ce document, ce n'est pas indiqué. Je le mets sur mon brouillon. On va le retrouver plus loin. Non, excusez-moi, je ne vais pas m'interrompre. Les pourcentages que je n'ai pas montré tout à l'heure de répartition des déperditions, on retrouve le petit croquis qu'il y avait sur la publicité pour le DPE, avec des variations, mais assez peu. Il y a une troisième maison dont je vais parler tout de suite. Donc cette maison est en mutualité complète. Même les maisons voisines sont plus hautes qu'elles. Au point de vue apport solaire, c'est pas brillant. Donc pareil, on fait quelques choix. Cette fois-ci, on arrive à 75 kWh par mètre carré par an. Bon, vous voyez que la situation urbaine est pour quelque chose. C'est une maison très 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 protégée, malheureusement un peu protégée du soleil, pour la lumière intérieure c'est moins bien. Et avec un volume dont la mitoyenneté, c'est une maison étroite, grande mitoyenneté. Donc c'est un atout extrêmement important. La troisième maison, c'est une maison plus grande. Alors ce volume-là n'est pas compté, c'est une annexe qui ne rentre pas dans le calcul, mais qui nous permet d'envisager une possibilité de poser des capteurs solaires, et je pense que la simulation a été faite, mais oui, la simulation a été faite sur cette facette-là, et il est bien précisé, c'est pas possible, on est sur la rue, on est dans le secteur sauvegardé, ça ne marche pas. Et pour cette maison, on arrive aussi à une consommation inférieure à 90%. Alors, la situation urbaine et la typologie de la maison sont en jeu. La situation urbaine n'est pas très envoyante parce qu'il y a donc une mutualité que d'un côté. En revanche, la maison est beaucoup plus épaisse, un volume beaucoup plus grand, et il y a un effet d'échelle qui fait qu'il y a moins de déperdition au total quand on divise par le nombre de mètres carrés. Au total, il y a beaucoup plus de mètres carrés dans un volume plus compact. Et cette maison est également sur 4 niveaux, les autres étaient sur 3. Donc, passons. Le bilan. Alors, le bilan, on va passer directement à ce tableau qui devrait vous intéresser. Mais dans le vif du sujet. Alors, ce tableau est un peu à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'on a essayé de comparer les maisons et de voir par ligne de travaux possibles quel était le retour d'investissement. C'est-à-dire qu'on a fait une hypothèse de coût de travaux. Bon, sur une base standard de coûts de travaux, c'est toujours discutable. Certains travaux, par exemple une isolation du grenier et surtout de la cave, peut se faire par un bricoleur du dimanche pour quasi rien. D'autres travaux sont beaucoup plus complexes. Alors, c'est intéressant de voir, ça court un certain nombre de discussions, même s'il y a une marge d'erreur, parce qu'on reviendra sur la marge d'erreur entre la consommation calculée et la consommation réelle, on a déjà dit deux mots. Si on fait l'isolation par l'extérieur, sur la tour, on a considéré seulement, parce que c'était de toute façon interdit sur la façade avant. 155 ans de retour d'investissement, autant dire que c'est même pas la peine d'en parler, 380 ans de tissement de temps. Ça veut dire qu'au fond, l'isolation par l'extérieur, c'est bien, mais de toute façon, c'est cher pour un résultat modeste. Tout ça sans compter l'effet dynamique de l'inertie des murs, mais bon, ça ne réduira pas à quelques années. En revanche, une isolation posée à l'intérieur de 100 mm de laine de roche ou autre, dans la maison 1, le retour est de 9 ans, dans l'autre de 17 ans, dans la dernière de 24 ans, parce que toutes ces maisons, on a vu que elles n'avaient pas les mêmes déperditions. La première maison était la plus pénalisée, c'est là que le temps de retour est le meilleur, parce que c'est là qu'il y a le plus de dépenses de chauffage actuellement. Alors que dans les autres, les dépenses étaient déjà assez raisonnables. Un demi-mur isolé partout avec le système chauffe-chambre, qui est un peu plus cher, on en reparlera tout à l'heure, bon, ça se répercute. des menuiseries en bois, changer les menuiseries en bois. Alors là, c'est quelque chose qui nous a failli faire annuler ce tableau, parce que ça déplaisait évidemment à tout le monde. Changez votre menuiserie en bois. Vous devez être menuiserie pour une menuiserie neuve. Dans chacune des maisons, c'est rédhibitoire. 85 ans de retour, 82 ans, 109 ans de dismoton, là aussi. Bon, alors, il faut moduler ça, quand même, parce que c'est le temps de retour en monnaie, mais il est évident dans bien des cas, la motivation pour changer d'ouverture, c'est aussi un confort. C'est-à-dire que ça ne se mesure pas uniquement en économie d'énergie, ça se mesure aussi en confort. On verra là-dessus. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, si on met des survitrages partout, eh bien, les temps de retour sont pas tout à fait de même ordre, un peu meilleurs, mais pas très différents. Et si on met de doubles fenêtres, on ne dit pas de bêtises, le temps de retour est un tout petit peu meilleur que le premier, mais pas très différent. C'est-à-dire que, au total, l'action sur les ouvertures, qui est à faire néanmoins, dans bien des cas, c'est-à-dire que quelquefois, la question ne se pose même pas, les mesures sont vraiment en trop mauvais état, mais souvent ce n'est pas le cas. Il y a des tas, là c'était des menuiseries type 19e siècle qui n'étaient pas pourries, qui n'avaient pas lieu de changer, d'ailleurs les gens ne les avaient pas changées, n'avaient pas l'intention de le faire, et ce n'est pas ce tableau qui va leur donner, va les encourager, malgré les démarcheurs qui nous ont confirmé, qui passent deux fois par an les voir, ou l'envoyer de l'appui. Donc ça c'est quand même, c'est quelque chose de très important. On y reviendra un petit peu. La question d'isolation du surface de plancher, on a dit c'est très simple. Souvent, le plancher est accessible par la cave. Bon, on ne sait rien du tout. 6 années, il ne faut pas s'en priver. C'est très simple. Ça peut rapporter quand même un peu. Isolation des combles, c'est très différent selon les maisons parce que quelquefois, les combles sont peu accessibles. Si dans aucun cas, les combles étaient vraiment accessibles. Dans aucun cas, on pouvait les dérouler sur un faux plafond de la laine de verre, donc c'était relativement cher. Changement de la chaudière. Dans le premier cas, évidemment, c'est un retour très rapide, parce que d'ailleurs, dans les autres cas, ça n'a pas été fait, parce que ce sont déjà les chaudières qui ne sont pas mauvaises. Et dans la première maison, la chaudière est très défaillante, donc bien que la dépense soit importante, le temps de retour est fort et rapide. Bon, temps de régulation, etc., on va passer rapidement. Chauffe-eau solaire. Alors c'est un peu théorique parce qu'on l'a pas pris en compte d'ailleurs dans nos calculs de tout à l'heure, mais sur la première maison encore, ce serait de l'ordre de 15 années. Sur la première maison, ça pourrait valoir la peine parce que aussi c'est celle qui est la plus dépensière dans l'état actuel. La question des ventilations mécaniques aussi est importante. Le temps de retour est très très mauvais, d'autant que dans un certain nombre, je n'ai pas montré dans le tableau précédent, mais installer une ventilation mécanique contrôlée, c'est un cas à rebours, parce qu'on fait circuler de l'air, on dépense de l'électricité pour faire tourner la ventilation, et on ventile mieux que ce ne se ventilait auparavant. Cependant, la ventilation, si on change des fenêtres, est absolument obligatoire, autrement la maison devient insalubre, donc il faut mieux dépenser un peu d'argent sur sa facture que d'avoir une maison totalement insalubre. Donc les temps de retour sont un peu paradoxaux, peuvent paraître totalement paradoxaux, mais bon, il faut pas en tenir compte. On n'a pas véritablement le choix. Quand on commence à étancher la maison, il faut ventiler de façon contrôlée. Donc, je m'attarde un tout petit peu sur ce tableau, puisqu'on a parlé au tout début, que je ne dise pas de bêtises, que je le dise bien. Oui, voilà, énergie, prenons la dernière ligne, ça nous suffit. La consommation réelle sur la première, 661 kWh, etc., sur facture. La consommation calculée, 361. On a vu que c'était la maison la plus dépensière, néanmoins la consommation calculée est très supérieure. Quand je dis calculée, c'est calculé selon les barèmes en vigueur. Donc ça rejoint l'idée qu'on surestime toujours la consommation sur les maisons anciennes, on les discrédite d'une certaine manière avec ça. Alors là, c'est d'autant plus spectaculaire sur la maison 2, mais j'ai dit que c'était des gens qui visiblement mettaient des repleveurs plutôt que de salle à chaudière. 168 kW à comparé à 248. Et puis sur la maison 3, on est dans les mêmes. Non, on est beaucoup plus proche parce que c'est la maison qui est la plus grande, la plus vaste, et les choses s'amortissent plus facilement. 171 pour 205. Donc là, on peut dire que le calcul théorique n'est pas aberrant puisqu'on est à 20% de plus, alors que dans les autres, on est. Bah oui, 20%, c'est écrit, excusez-moi ici, 48% et 38%. Donc, vous voyez les deltas du calcul. Mais de toute façon, les chiffres donnés par le calcul donnent au moins une tendance, même s'il ne faut pas les prendre trop au pied de la lettre. Voilà.